prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, sur les chemins de l'espérance.
Chapitre 16, si vous voulez bien suivre, ce sera simplement un verset. Chapitre 16, verset 21. Vous connaissez probablement ce passage et nous allons lui donner une explication. Voilà, Jean, chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alors, mesdames, vous en savez quelque chose, vous qui êtes maman. Et je voudrais vous parler de l'attente d'une maman où la souffrance s'est changée en joie. Et à ce titre, nous allons lire dans un fameux livre de la Bible que l'on appelle le livre de Samuel, premier livre de Samuel, verset chapitre 1er et au verset 1er. Et nous allons voir ce que Jésus nous dit en ce qui concerne finalement cette attente, cette espérance. Et il s'agit précisément de ce sujet, les chemins de l'espérance. Alors, je rappelle 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Eliu, fils de Tohu, fils de Tsup, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, qui était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Et Samuel, ça veut dire « Dieu a exaucé ». Voilà. Les biblistes connaissent évidemment cette histoire. Et c'est bien l'histoire d'une croyante dans l'Ancien Testament. C'est le récit de la vie de cette femme que nous allons prendre en considération. Et cette vie-là soulève la question parfois douloureuse des choses que l'on attend, et pas de n'importe qui, que l'on attend de Dieu. Donc c'est un sujet qui intéresse les croyants. Ceux qui, finalement, eh bien, s'attendent à Dieu. En un mot que nous connaissons bien, c'est l'espérance. Oui, l'espérance. Et vous savez que l'espérance est écrite en lettres de feu dans le Nouveau Testament. Il nous est dit que trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Permettez-moi de dire, dès le départ, c'est que l'espérance est tantôt la chose la plus cruelle et tantôt la chose la plus douce. Celle qui réjouit profondément. Et l'espérance fait souffrir. Et l'espérance peut nous réjouir comme nous ne pouvons pas nous l'imaginer. Nous l'avons lu tout à l'heure, dans ce que Jésus nous dit. Lorsqu'une femme, bien, sait que son heure est proche, il y a les douleurs. Il y a tout ce travail qui est là. Alors, c'est une souffrance, c'est une peine, c'est un chagrin. Mais une fois que l'enfant est né, à ce moment-là, elle a tout oublié. Mais c'est terminé, et c'est la vie qui est là. Alors, le sujet, tout simplement, de notre méditation ce soir, c'est la souffrance d'une âme dans l'espérance de la réalisation des plans de Dieu. Je crois que vous-même, ou d'autres personnes qui sont susceptibles de lire ce texte, ou de l'entendre en prédication d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous avons peut-être au fond de notre cœur le souci de voir les plans de notre vie, les plans de Dieu pour notre vie se réaliser. Et j'ajouterai ce proverbe, peut-être que vous connaissez, un proverbe nous dit ceci, c'est qu'au royaume de l'espérance, il n'y a point d'hiver. Pourtant, il y a quelquefois des situations qui sont difficiles à vivre. Mais vous savez que l'hiver précède toujours le printemps, la souffrance et la joie. L'histoire d'Anne, de cette femme israélite, est digne d'être élevée au rang des plus belles et des plus grandes leçons, finalement, de la Bible. Son chagrin, le support de son affliction, sa patience à l'égard du temps, parce que nous allons parler un peu de ce temps d'épreuve, ses motivations pour ne pas céder au découragement, et également sa joie, eh bien c'est tout ça sa vie. À cette femme, pendant non pas quelques jours, et pendant très longtemps de sa vie de femme. Et nous voyons qu'elle va commencer dans la peine, comme très souvent les histoires de la Bible, et tout va finir dans la louange. Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a de l'espoir pour les hommes qui mettent leur confiance, leur espérance en Dieu. D'abord, la raison du chagrin d'Anne était précisément d'être rempli d'espérance en Dieu. Vous savez que croire en Dieu, ça fait souffrir. Ça peut faire souffrir. Eh oui. Ça semble peut-être quelque part inconcevable, mais c'est pourtant la réalité, on va la découvrir. À vrai dire, ce n'est pas l'espérance en Dieu qui fait souffrir, mais davantage l'attente de la réalisation de nos espérances que nous avons déposées en Dieu. Cette attente. Vous savez, si à chaque fois que nous prions, et que dans l'instant qui suit, nous étions exaucés, il n'y aurait plus d'espérance. Ce serait formidable, c'est vrai, mais il n'y aurait plus d'espérance. Et pourtant, l'espérance contribue à nous faire grandir dans la foi, à nous amener à découvrir Dieu, à marcher pas à pas avec lui. Et quand nous avons engagé ce travail, qui quelquefois est un travail qui nous attriste, qui nous meurtrit, mais lorsque l'exaucement est là, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons même imaginer. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, il est dit ceci, « Réjouissez-vous en espérance. Écoutez, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors, Anne, elle a rempli toutes ces conditions. Ce sont des éléments indissociables de l'espérance, la joie, la patience, la persévérance. Vous savez, dans la Bible, il nous est pas dit de nous attrister, de nous lamenter, parce que ça s'exprime de cette manière, de nous attrister en espérance, mais il nous est dit de nous réjouir en espérance. Il y a une nuance. Les gens qui se lamentent, les gens qui murmurent, c'est plus l'espérance à ce moment-là. Ils sont renvoyés à eux-mêmes, à leur chagrin, et c'est quelque chose de totalement stérile. Mais vous remarquerez, sous la plume des écrivains de la Bible, et particulièrement de Paul, eh bien, très souvent il exhorte ses lecteurs à se réjouir en perspective de l'espérance, du résultat de l'espérance que nous mettons en Dieu. Alors, on a bien compris que comme Anne, tout croyant doit être rempli d'espérance, que ce soit une espérance de guérison lorsqu'il est malade, une espérance de délivrance lorsqu'il se sent opprimé, oppressé par différentes choses, par différents liens ou chaînes, l'espérance de la délivrance du mal, de l'injustice, du péché, une espérance sociale, ce n'est pas défendu, une espérance peut-être de mariage pour ceux qui sont seuls et qui se disent, eh bien, moi je voudrais bien rencontrer la personne qui me correspond. Une espérance peut-être de conversion d'un être cher, que ce soit ceux qui vivent autour de nous, et puis bien d'autres choses. Et devant toutes ces promesses, eh bien, à dire que nos rêves, parfois, dans nos rêves, ne nous arrive-t-il pas de soupirer, de gémir et de pleurer? Vous savez, je l'ai dit il y a un instant, quand on reçoit tout de suite, ça ne va pas très loin comme ça. On ne sait pas ce que c'est finalement. On reçoit, on demande, on reçoit. Mais lorsqu'il s'agit de poursuivre un chemin difficile, rocailleux, périlleux, alors à ce moment-là, quand les choses viennent, quand elles vous arrivent, quand vous êtes exaucé, mais est-ce qu'il y a des mots pour décrire la joie? C'est extraordinaire. Alors donc, réjouissez-vous. Et se réjouir, c'est d'abord une attitude de positivité et c'est un impératif pour bien vivre dans l'épreuve. Vous savez, il y a tant de gens qui prennent le chemin contraire, qui au lieu de finalement, mobilisent pour dire, eh bien, je vais y arriver avec la grâce de Dieu, je vais y arriver, j'ai prié, je crois dans les promesses qui m'ont été faites. Alors, ça nous aide à supporter peut-être le temps et puis les difficultés. Mais si on fait le contraire, ça sera forcément, les pleurs et les lamentations, naturellement. Mais sans espoir de aucune manière. La grande espérance d'Anne, celle de toute sa vie, on l'a compris dans le texte, c'était tout simplement de mettre au monde un enfant. Ce n'était pas un problème de mariage, elle était mariée. Elle avait un mari, mais il nous est dit dans le texte qu'elle espérait et elle le voulait tellement mettre un enfant au monde. Et je crois que c'est le désir de toutes les femmes et ô combien légitime, c'est tout à fait normal. Et n'est-ce pas la volonté de Dieu ? Dieu nous dit également dans un autre texte, « Eh bien, moi qui ai créé les hommes, empêcherai-je de vivre ? Moi qui ai donné la vie, est-ce que je vais empêcher de vivre ?» Et pourtant, nous sommes confrontés avec une femme qui a un gros problème de stérilité. Si nous nous souvenons également de l'exhortation de Romains 15, 4, il est dit ceci, « Parce que tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire dans la Bible, pas ailleurs, mais dans la Bible, dans l'Évangile, eh bien, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et vous savez, si nous avons besoin de puiser nos forces, notre courage, notre espoir, notre foi, eh bien, c'est dans tout ce qui était écrit d'avance. Et ce soir, je ne fais que vous rappeler, que partager avec vous ce qui était écrit d'avance. Et ce qui était écrit d'avance, c'est tout simplement, eh bien, entre autres le texte que nous avons ouvert et que nous partageons maintenant, afin que, justement, dans ces Écritures, eh bien, nous apprenions ce que c'est que la patience, que nous trouvions également la consolation lorsque l'exaucement tarde, et qu'à finalement, nous possédions l'espérance. Et l'espérance, c'est quelque chose que personne ne pourra vous voler. Lorsqu'elle est au fond de notre cœur, eh bien, Dieu ne manquera pas de l'honorer. Alors, sachons regarder à l'exemple de ceux qui nous ont précédés et en tirer l'instruction, comme nous l'avons dit, la constance, la consolation, pour que nous puissions grandir et posséder le plus beau de tous les trésors du cœur, je le rappelle, eh bien, cette espérance en Dieu. Je commence dans le verset 2, il nous est dit ceci, et je relis, Elkana, un homme, Elkana avait deux femmes. Ça, c'était un petit peu les mœurs de l'époque, hein, c'était la polygamie, même en Israël. Donc, il avait deux femmes, c'est un Israélite. Hein. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, et c'est terrible ce que nous lisons, et Anne n'en avait pas. Voilà. Quelle injustice dans la vie. Hein. Voilà une femme, la première, qui a des garçons et des filles, et puis Anne, qui désirerait tellement avoir des enfants, elle est tout simplement, eh bien, stérile. Nous sommes au cœur d'un drame familial, comme ça arrive très souvent dans la Bible. Pour un mari, c'est vrai de ne pas avoir de fils ou de fille, mais plus encore pour une malheureuse épouse, et il semblerait que dans les premières lignes de notre texte, il semblerait qu'elle est seule à porter sa peine. Oui, parce que ça c'est son problème à elle, son problème. Le cœur d'Anne est déchiré par un immense fardeau, parce que nous avons sous les yeux la raison. Enfin, toujours est-il que ce que l'Écriture nous dit, il nous est dit qu'elle n'en avait pas, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Alors on se dit, mais dans quel monde on est ? Celui qui donne la vie avait empêché cette femme d'avoir des enfants. C'est un non-sens. C'est quelque chose de tellement aberrant. Et même toute l'affection, toute la tendresse de son mari ne suffisait pas à la consoler. Il pouvait bien lui dire, « Eh bien, je t'aime, Anne », puisque le texte nous dit « Elkana aimait Anne ». Et lors les jours de fête, et entre autres celui où nous nous trouvons, eh bien, il lui donnait une double portion. Il ne savait pas quoi faire pour essayer de lui donner une compensation, essayer de la consoler, essayer de lui apporter un petit peu de bonheur. Ouais. Alors, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Hein. Anne pouvait recevoir toutes ces choses. Mais est-ce que cela était suffisant ? Il lui donnait. Il lui prodiguait les soins les plus attentifs et les paroles les plus douces. Et il lui disait, et il lui posait cette question souvent. Quelquefois, il y a des questions que nous posons à des gens qui souffrent, mais qui leur font encore plus de mal. Parce que normalement, peut-être que nous pourrions formuler les choses autrement, mais c'est que nous n'y pensons pas. Et nous ne prenons pas toujours en compte que de la manière dont nous parlons à ceux qui souffrent. Et pourtant, Elkana, son mari, était probablement superbement attentionné vis-à-vis de sa femme, et il lui posait cette question, « Pourquoi Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ?» Mais il savait pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle ne mangeait pas. Pourquoi sa vie s'était arrêtée ? Il le savait, mais il posait toujours la question. Ça, ça devait être quelque chose de dramatique pour cette femme. Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ? Bien, vous savez, un mari c'est un mari, et un fils c'est un fils. Elle pourra en avoir 100 ? Mari ? Ça ne changerait rien. Non, ce qu'elle voulait, c'est qu'elle avait un mari, mais elle voulait avoir des enfants de son mari. Ça, c'était la différence. Alors pourquoi ? Terrible humiliation que la stérilité de cette femme. Je voudrais faire cette remarque au passage avant d'aller plus loin, c'est que à nos propres pourquoi, à nos propres questionnements, interrogations, perplexités, moi je réponds, mais pourquoi les gens viennent-ils nous demander pourquoi ? Si nous ne le savons pas nous-mêmes. C'est difficile. Même les plus affectionnés, que répondent à ce moment-là ? C'est bien la preuve que nos semblables, nos proches, ne peuvent satisfaire à nos espérances. Ce qui nous amène de fait que, à dire et à préciser que Dieu seul peut réaliser ses espérances. Allez. Elkana était un excellent époux, mais il n'était pas un fils. Il avait sa place, il avait son rôle, mais il n'était pas un fils. Et il n'y avait pas pour Anne de compensation à l'espérance, et rien ne pouvait se substituer, qui pouvait remplacer, eh bien, tout simplement ce qu'elle attendait, la réponse qu'elle attendait, que son cœur attendait. Tout ce que les hommes peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous, ne pourra jamais combler la mesure, finalement, de nos espérances spirituelle, voire même avec des conséquences comme Anne, et nous laissera toujours insatisfaits. Dans le livre, un livre ou un proverbe plutôt. Un proverbe, le livre des proverbes plutôt, et c'est ça, c'est bien cela. Au chapitre 13 et au verset 12 nous dit ceci, « Un espoir différé rend le cœur malade, et on le sait ça, hein, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Et vous allez voir comment Dieu est capable de résoudre le problème. On va le voir d'ici quelques instants. À une espérance fondée sur Dieu, eh bien, ne répond qu'un exaucement, et du ciel. Un exaucement de Dieu et rien de moins. C'est bien ça, justement. C'est bien cela, tous ces hommes et ces femmes qui ont eu de grandes espérances dans la Bible et qui sont pour nous des modèles de foi. C'est que très souvent, ils se sont trouvés dans des situations d'impossibilité. Ils ont dû attendre des semaines, des mois, voire même des années. Je pense à Moïse, ou je pense à Abraham, puis bien d'autres. Mais leur foi n'a pas varié, elle n'a pas bougé, jusqu'au jour où Dieu les a portés pour saisir, par la main de la foi, eh bien, les trésors du ciel. Et on sait que ce sont des gens qui sont restés dans l'histoire de la Bible et qui sont encore pour nous, bien comme nous l'avons dit tout à l'heure, des modèles. Vous savez, en fait, c'est Dieu que nous attendons. Et peut-être que je pourrais retourner la question d'une autre manière, est-ce que Dieu ne nous attend pas aussi pour faire grandir notre foi, notre espérance, et nous donner peut-être plus promptement. Parce que quelquefois, eh bien, nous avons si peu de force pour saisir. Alors, à sa douleur intérieure, s'ajoutait pour Anne la méchanceté de sa rivale, c'est-à-dire de Pénina. Et sa souffrance n'était pas seulement sa stérilité, mais sa souffrance avait un autre sujet, un autre objet. Elle devait supporter l'affliction, je relis, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendue stérile, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Imaginez-vous, c'était quelque chose d'abominable, une chose pareille. Parce que sa rivale devait passer avec ses garçons et ses filles devant elle, avec un petit sourire narquois en disant « Moi, voilà, je suis une maman, je suis une mère, toi, t'en es même pas capable. » Et on peut l'imaginer, hein, parce qu'il nous est dit qu'elle l'a mortifiée à travers toutes sortes de choses. Et peut-être de lui dire, tiens, tu sais, moi, Dieu m'a béni, hein. Regarde-toi. Je me demande si tu n'es pas maudit quelque part. Hein. Tu es stérile. Tu n'auras pas d'enfant. Ça ne se passera pas. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, la pauvre Anne? Eh bien, il lui restait à faire comme tous ceux qui sont en souffrance. Il nous est dit qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Parce que quand on mange et qu'on a de l'appétit, c'est qu'il y a quelque chose qui nous motive pour vivre. Mais quelle motivation pouvait-elle? Alors, elle pleurait. Elle était accablée par la malveillance et la méchanceté. Vous savez, déjà, quand on a un problème, c'est déjà une chose. Et qu'en plus, quand vous avez les gens qui sont en train de vous talonner derrière et vous provoquer, c'est quelque chose d'abominable. En tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que Pénina n'était pas mue par l'amour. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle défendait sauvagement ses droits d'épouse. Elle se disait, mais oui, quand il va y avoir des enfants chez l'autre épouse, peut-être que mon mari va se détourner aussi. Vous savez, il y a toutes sortes de calculs qui sont... Bon, enfin, je n'ajoute rien. Alors qu'elle était la plus favorisée. Elle avait des enfants, elle avait un mari. Elle était jalouse. Vous savez, la jalousie, c'est terrible. C'est affreux, la jalousie. Oui. Jalouse de partager le même époux. Enfin, aujourd'hui, c'est... on a légiféré sur la question, bien que, enfin, c'est la société. La jalousie, écoutez bien, c'est la définition que nous pouvons donner. C'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous possédons. Voilà, j'ai, mais je le garde pour moi. Pas question, hein, ça la jalousie. Et c'est l'histoire de nombreuses personnes qui apparaissent dans la Bible. Je pense à Léa et à Rachel, si vous connaissez un peu votre Bible, avec l'histoire des mandragores. Vous lirez, c'est une histoire truculente. C'est intéressant. Oui. Et c'est les conséquences de la polygamie, hein, tout simplement. Cette jalousie se traduisait par des vexations, par de subtiles humiliations, des paroles, des attitudes, des regards et toutes sortes de provocations. Ce que faisait Pénina n'était pas bien. Parce qu'il nous est dit que c'était fait pour la porter à s'irriter, c'est-à-dire à pécher. Il y a un texte qui nous dit ceci, « Garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance t'y prédispose. » Vous connaissez, c'est dans le livre de Job. Ça, c'est à retenir. S'irriter d'abord contre les autres, quand on est souffrant. Oui. elle pouvait s'en prendre à Pénina, à son mari, et puis aux enfants de Pénina, elle ne l'a pas fait. Elle pouvait s'en prendre à elle-même, c'est-à-dire à se déconsidérer en disant « je ne suis pas une épouse, je ne suis pas une femme, je ne peux pas mettre d'enfant au monde ». Elle pouvait s'en prendre à Dieu, c'était une tentation de révolte, de douter de Dieu et de désespérer, tout cela. Alors, on peut dire que si Pénina était jalouse, elle n'était pas envieuse. Parce que quelquefois, on peut répondre au mal par le mal. Elle n'était pas envieuse. L'épreuve d'Anne va révéler le fond de son caractère. Oui. Et vous allez découvrir que dans la définition qui est donnée sur l'envie, tout à l'heure, je vous ai parlé de la jalousie, maintenant l'envie. L'envie, c'est la douleur de voir autrui jouir de ce que nous ne possédons pas. Voilà, c'est ça. Alors, au point où nous en sommes, pourquoi Anne n'a-t-elle pas pu répondre aux méchancetés, n'a-t-elle pas voulu répondre aux méchancetés de sa rivale? Peut-être on pourrait lui attribuer un tempérament facile et souple. Surtout parce que son cœur était rempli d'une véritable espérance en Dieu. Là où il y a de l'espérance, il n'y a pas de méchanceté. Enfin, moi je crois, je veux le croire. Il y a de la souplesse, une véritable espérance, qui fait que l'on accepte et que l'on endure certaines épreuves sans broncher, en disant, bien, Seigneur, s'il y a une délivrance, si elle existe, cette délivrance, s'il existe quelque chose pour se porter à mon secours, eh bien, ça viendra de toi. Et quand on se tourne vers Dieu, eh bien, on ne peut pas être méchant avec les autres. Et s'il y a le contraire, il y a des questions à se poser. Anne savait, premièrement, que tout secours vient de Dieu seul, parce qu'il est souverain, ça, elle le savait. Deuxièmement, que tout écart, retarde ou éloigne du but tant espéré. Oui. À partir du moment où on se livre à toutes sortes de choses et qu'on laisse notre tempérament et notre caractère, eh bien finalement, faire ce qu'il a envie, à ce moment-là, eh bien, on prend du retard, certainement. Et puis, elle savait également que s'en prendre à ses semblables, même s'ils sont méchants, il y aura toujours des gens méchants sur notre route, ne justifie en rien et ne plaide pas en notre faveur. Ça, elle savait ces trois choses. Elle est restée avec ses dispositions dans son cœur. Son seul refuge était de pleurer et de ne pas pouvoir manger. Alors, c'est pas une solution, hein. Parce que ça dure un temps, mais c'est pas une solution. Et quelquefois, on peut le voir chez certaines personnes, hommes et femmes, jeunes aussi, peut-être même des personnes âgées, où la souffrance est telle qu'il semblerait que leur vie se soit arrêtée à un moment ou à un autre. Ils ne peuvent plus vivre. Ils sont arrêtés, stoppés. Sa profonde affliction à Anne la conduisait, on peut dire, au vrai jeûne. Ce n'était pas un jeûne qu'elle décrétait en disant « moi je vais prier, je vais jeûner, et comme ça je vais obtenir ». Là, nous avons une preuve que le vrai jeûne, c'est autre chose. Il se fait naturellement, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas envie de manger. Et il n'y a qu'une chose, c'est que c'est seule la présence de Dieu qui vous fait du bien. Ça, c'est le vrai jeûne, c'est se tenir devant Dieu. C'est souffrir en silence, en quelque sorte, non devant les hommes, mais d'apporter nos fardeaux devant Dieu. En disant, Seigneur, mais voilà, je suis devant toi et j'attends que tu viennes me secourir et m'apporter la grâce dont j'ai besoin. Vous savez que le silence vaut mieux que la révolte. Tel est le caractère d'Anne, mais également de tout vrai disciple, de tout vrai chrétien. S'abandonner simplement à la volonté de Dieu en présence de toutes les violences, de toutes les injustices et de toutes les incompréhensions. Et voilà qu'Anne, à ce moment-là, va rentrer dans la tente d'assignation. Le temple de l'Éternel, comme nous l'avons lu, mais c'était la tente d'assignation, elle était là à Silo, c'est là où on faisait la fête, c'est là où on rencontrait Dieu, où on adorait Dieu, et à ce moment-là, elle est rentrée dans cet endroit, seule, elle avait laissé les autres, certainement, eh bien, dans les repas et toutes sortes de choses, et il nous est dit qu'Élie pensa, quand il l'a vue pleurer, il pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Imaginez-vous, Élie, c'est le grand prêtre d'Israël. Et il voit cette femme qui est séparée des autres, qui vient pleurer, dans le silence, dans la présence de Dieu. Et lui, il se méprend, il ne comprend pas. Vous voyez, même les gens les plus avisés et les plus spirituels ne comprennent pas. La preuve en est. Et il va lui dire, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu es ivre. Ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne comprend pas et il va la rabrouer. Il va la renvoyer. Nous en arrivons maintenant à un troisième facteur déprimant dans la situation d'Anne, c'est le temps. Voilà. Elle n'avait pas d'enfant, On se moquait d'elle, on l'avait humiliée, mais là, c'est le temps. Au verset 7 que nous avons pris tout à l'heure, il nous est dit « Et toutes les années, il en était ainsi. » À chaque fois qu'elle revenait devant l'Éternel, devant, dans la tente, le sanctuaire de Dieu, elle venait pour porter sa prière, elle priait tous les jours. Hein. Mais là, c'était quelque chose de beaucoup plus important pour elle. Elle montait à la tente de Silo, la tente de là où on rencontrait Dieu, et là, elle venait avec un fardeau encore beaucoup plus lourd. Parce que tout le monde venait dans la joie pour faire la fête, mais elle venait avec sa tristesse. Et elle se dit, mais un jour, Dieu va m'écouter, il va m'entendre. Alors, vous savez, le temps, c'est quelque chose. Hein. L'affliction, à ce moment-là, devient d'autant plus pénible, d'autant plus pesante, que ce n'est pas l'affaire d'un jour pour Anne, ni d'un mois, mais d'années. Chaque année, c'était pareil. Vous savez, quelqu'un a dit que la patience, c'est l'art d'espérer. Je trouve que c'est une belle phrase. Et quelle école pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement l'école des chrétiens, mais c'est l'école de tous les hommes. Oui, l'art d'espérer. Vous savez, ce que nous redoutons le plus, les uns et les autres, c'est la fuite du temps. Oui. Angoissée par la perte du temps. Parce qu'elle savait qu'à un moment ou un autre, elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Elle vieillirait comme toutes les femmes. Elle se disait, mais voilà, je compte les années. Et à un moment donné, mais moi, je vais rester sans enfant. Et imaginez-vous ce qu'a pu être ce drame angoissé. Et puis quand on voit notre vitalité partir, notre jeunesse qui s'enfuit, tout ça. Je voudrais dire une chose pour que nous le retenions, c'est que le temps qui passe nous sert davantage qu'il nous dessert lorsque c'est vécu en Dieu. Pas oublier, lorsque nous le vivons en Dieu, c'est différent. Dieu se sert du temps à notre insu pour réaliser précisément ce que nous croyons avoir perdu. Et j'insiste, ce que nous croyons avoir perdu. On a tous le sentiment d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans une affaire comme Anne, que ce soit dans n'importe quoi, on se dit, mais quel temps perdu, mais comment vais-je pour le rattraper? Ne vous faites pas de soucis. Avec Dieu, il n'y a pas de perte de temps. Et il sait pourquoi le temps passe. Il sait pourquoi il permet que le temps passe. Il sait pourquoi nous avons à patienter. Pourquoi ceci ou cela? Il le sait. Il y a une maxime qui dit ceci, que j'ai trouvée très belle, c'est que le temps est une lime qui travaille sans bruit. Ouais. Vous savez que les artistes, les ébénistes se servent, puis les gens qui font de la ferronnerie d'art se servent d'une lime. Et c'est vrai que c'est tout un art de manier la lime. Ça travaille sans bruit, mais ça fait finalement son œuvre. Parce que la lime, elle peaufine, elle polie, elle façonne, elle perfectionne. Et c'est bien cela, entre les mains de Dieu, ce que nous sommes les uns et les autres. Le temps semble en apparence voler nos espérances les plus fortes et les plus vives, mais une véritable espérance résiste à l'épreuve du temps. Je pourrais vous citer, sans vous désespérer, certains textes de la Bible, où certains ont attendu et n'ont pas attendu vainement. Et la réponse de Dieu a été au-delà de toutes leurs espérances. Ouais. Anne possédait, et c'est non moins remarquable, une saine motivation d'espoir. Et il y a de bonnes et de mauvaises espérances. Elle avait une bonne espérance. La substance de sa requête, le mobile, le verset 11 nous dit, et l'Éternel des armées, parce que c'est sa prière, elle interpelle Dieu, elle lui dit, Dieu, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Elle avait un mobile, c'était tout simplement de donner la vie pour que cette vie glorifie Dieu. Que cette vie soit à la gloire de Dieu. Vous savez que le petit Samuel qui va naître a été dans la Bible un homme où il n'y a pas grand-chose à dire sur sa vie, en reproche. Il était exemplaire. déjà tout petit, enfant. Et puis, plus tard, naturellement, quand il est devenu le prophète que nous connaissons. Est-ce que nous ne pourrions pas peut-être formuler la prière d'Anne pour nous-mêmes ? Je m'attends à Dieu afin que ma délivrance serve à sa gloire. Je m'attends à Dieu afin que ma guérison le glorifie dans le service. Vous connaissez ? On pourrait dire peut-être pour ceux qui ont un problème affectif, eh bien je veux ceci, cela, pour que mon foyer honore le Seigneur. Je prie pour la conversion d'un tel ou d'une telle afin que le nom de Jésus soit exalté, non pas pour moi, mais pour que Dieu soit exalté. Pour nous rappeler que l'apôtre Paul dira ceci, faites tout pour la gloire de Dieu. Même espérer. Espérer. Brièvement, nous allons voir maintenant comment l'espérance d'Anne se change en conviction ainsi que ses conséquences. Élie, le prêtre, reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. » Alors elle a répondu « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, écoutez, elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est exactement le contraire de ce que nous avons vu au départ. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une simple parole qui lui a été donnée. Comme quoi une parole peut changer votre vie. Comme quoi une parole qui vient de Dieu, une promesse de Dieu peut bouleverser notre existence complètement et totalement. Vous le croyez, ça ? Ben, c'est ce qui s'est passé pour nous. Hein. Et c'est ce qui peut se passer encore. Et c'est ce qui se passera encore, moi je le crois. Il n'y a aucun doute à avoir. D'abord, le miracle du cœur, parce que c'est là que tout commence. Cette femme était stérile. Elle avait probablement un problème, certainement. Mais Dieu a fait comme le paralytique de Bethesda. Avant de le guérir physiquement, il l'a guéri intérieurement. Une guérison intérieure, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est surnaturel. La parole d'Élie a été reçue par Anne comme une parole prophétique qui a été l'autorité de sa foi. Et elle a cru et elle a été guérie. Vous savez qu'il y a un texte que j'aime beaucoup personnellement. Dans le livre des psaumes, il nous est dit « Dieu envoya sa parole et il les guérit ». Et ce soir, alors que nous sommes en train d'ouvrir le message de la Bible, l'Évangile, on peut le dire d'une manière comme ça, eh bien, Dieu nous parle et parle à des hommes. Il parle à des femmes. Il a parlé pendant des siècles et des siècles à des milliers et des millions de personnes. Et c'est par sa parole qu'ils ont été guéris, d'une manière ou d'une autre. Et elle a entendu cette parole, elle l'a reçue comme une parole prophétique. Il y a des choses dans notre vie que nous recevons à un moment ou à un autre, et on dit c'est Dieu qui me parle à ce moment-là. Et on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, naturellement. Elle a reçu cette parole. Dieu est le seul qui puisse transformer notre chagrin en joie, notre espérance en heureuse réalité. Parce que vivre l'espérance, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'il y ait une réalité, une réalisation. Et cela par sa parole. La guérison d'Anne, je précise, a été traduite par trois choses significatives. Elle est partie. Il nous est dit qu'elle s'en est allée. Pourquoi rester et se lamenter encore puisque le problème était résolu ? Ne nous renfermons pas, peut-être dans les vieilles habitudes dans lesquelles nous avons peut-être trouvé une complaisance de pleurer, de nous lamenter en disant « Dieu ne fait rien, Dieu ne fera rien, je suis malheureux, je suis malheureuse et puis rien ne changera. » Elle est partie, elle n'est pas restée sur place. Et nous avons aussi à marcher et à avancer, pas rester statique, pas rester figé. Ça c'est la première chose, elle s'en est allée. Et ensuite, elle a mangé. Elle a manifesté, tout simplement, la reprise du goût de la vie. Et oui, et vous savez ce qui nous fait vivre ? C'est ce que nous entendons de Dieu. C'est ce que nous recevons de Dieu. C'est la promesse qui redémarre notre vie alors qu'elle était arrêtée, elle était stoppée. Vous savez, un malade, quand il se sent guéri, il commence à manger. Hein, ça, c'est un signe. Hein. Ouais. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. On commence à prendre de la nourriture. Vous savez, quand Jésus a guéri la petite fille de Jaïrus, qu'est-ce qu'il a fait ? Après l'avoir guéri et ressuscité, il lui a dit, Il a dit à tous ceux qui étaient autour, donnez-lui à manger. Ça, c'est un signe de vie. Et puis, la troisième chose, c'est que son visage a changé. C'est-à-dire, elle a été rayonnante. Et pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé? Elle n'était toujours pas enceinte. Elle avait entendu seulement la parole d'un homme qui était un grand prêtre d'Israël. Rien n'avait changé en apparence. Mais c'était son cœur qui avait changé. Elle avait saisi. Et son visage, eh bien, était illuminé à ce moment-là. Le temps des larmes était fini. Oui, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons faire la démonstration que quelque chose s'est passé dans notre vie. Ce n'est pas il y a 30 ans ou il y a 40 ans. C'est des expériences d'aujourd'hui. Et à partir du moment, eh bien, où nous avons bien compris le plan de Dieu et la grâce de Dieu, eh bien, ça va se voir. Un chrétien doit être un chrétien qui doit faire la démonstration qu'il est joyeux et qu'il est heureux. Hein. Oh, écoutez, on a 10 000 fois plus que les autres. Je ne sais pas, hein. Non ? Mais bien sûr, si on veut compter les choses. Si on les compte au négatif, c'est sûr que c'est terrible. Mais si on veut bien le considérer, alors à ce moment-là, mais on est les hommes les plus heureux de toute la terre. Ouais, c'est vrai. Le visage change. Les larmes sont finies. Puisqu'il nous est dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Anne et son mari retournent ensuite dans leur maison à Rama, et quelques mois après, ça suit quand même la nature. Hein. C'est normal et c'est logique. Naît un petit Samuel. Voilà. Ça veut dire tout simplement entendu et exaucé de Dieu. L'histoire d'Anne nous fait penser au porteur d'espérance. Vous connaissez le porteur d'espérance dans la Bible? Comment il s'appelle? Vous connaissez le porteur d'espérance? Écoutez, le psaume 126, je le lis. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence de l'espérance. L'espérance, sa foi en Dieu. Il revient avec allégresse quand il porte ses germes. Une poignée de semences abandonnée entre les mains de Dieu n'est rien en comparaison des gerbes que nous ramenons dont nous sommes chargés. Et c'est Dieu qui nous en charge les bras, avec un peu de semence. Un peu de semence de la foi. Un grain de sémevé, nous dit Jésus, et nous revenons avec des gerbes. Nous partons en pleurant, et nous revenons avec des chants d'allégresse, tout simplement, pour vous dire qu'avec Dieu, un petit peu produit beaucoup. Je termine. Un peu plus loin, dans le chapitre suivant, il nous est parlé de ce cantique de louange, parce que Anne va être reconnaissante. Et elle va dire ceci, vous le retrouverez au chapitre 2, « Mon Dieu se réjouit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée, car je me réjouis en ton secours. » Est-ce que nous sommes remplis? Est-ce que nous sommes débordants de véritable espérance qui nous pousse à la louange? Nous avons reçu et nous allons encore recevoir. Alors, c'est la louange maintenant. C'est fini la prière. Vous prierez pour autre chose, mais pour ce sujet-là, c'est fini. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune homme, et je venais juste de me convertir, je priais pour demander quelque chose de particulier, vraiment de tout à fait particulier. Je savais que Dieu allait me le donner, et je priais. Et je priais pas mal, je priais beaucoup, enfin, pour dire. Hein. Mais à un moment donné, Dieu m'a interpellé au fond de mon cœur, il m'a dit « Arrête de prier, arrête de prier, maintenant loue le Seigneur, parce que tu vas recevoir ce que tu as demandé. » Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de prier pour le sujet. J'ai commencé à dire « Merci Seigneur pour ce que tu vas me donner ». Ce n'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé quelques mois après. Mais c'est arrivé quand même. Je vous dirai ce que j'avais demandé. J'avais demandé Myriam. Et c'était quelque chose, hein. Voilà. Enfin, ça, c'est entre nous, vous ne pouvez personne. Non, mais je vous fais confiance, de toute façon. Voilà. Mais c'est pour vous dire « Arrête de prier !» Maintenant, tu vas le recevoir. Et c'est vrai que c'est venu, pas tout de suite, mais c'est venu quand même. Voilà. Alors, c'est ça la louange, c'est important. Ceux qui vivent d'espérance, nous avons peut-être besoin d'entendre ces paroles de ce jeune homme qui s'appelle Élihu dans la Bible. Vous savez, Élihu le sage dans le livre de Job. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est peut-être la réflexion que nous nous posons aujourd'hui. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, Dieu. C'est vrai, on ne le voit pas. Que tu dises ou que tu penses que tes espoirs ne sont pas encore réalisés, il est dit ceci, ta cause est devant lui. Et votre cause, notre cause est chacun est devant Dieu. Il n'oublie personne. Dieu n'oublie pas. Alors, qu'est-ce que nous dit le sage? Attends-le. Ah, attendre. Seigneur, mais je ne fais que attendre. Ça me tue d'attendre. Mais non. Justement, l'attente, c'est pour vous faire vivre. C'est pour nous faire vivre. Fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Ce sont bien des paroles, ça, de la Bible. Paul dit ceci dans l'Épître aux Romains, que le Dieu de l'espérance, il l'appelle le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va animer cela. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que je sois rempli dans mon être, dans mon cœur, dans ma conscience, dans mon esprit. Remplis-moi pour que je connaisse cette joie et cette paix. C'est dans le fait de croire encore, sans voir, que le croyant puisse sa joie et sa paix. Alors à ce moment-là, il est rempli dans la mesure où nous faisons confiance en Dieu et que nous sommes capables de nous emparer par la foi des promesses déposées dans notre cœur par sa parole. On a entendu quelque chose ce soir. Ne laissez pas sortir de votre cœur sa parole. Gardez-la au fond de vous-même. Comme un enchaînement, la paix et la joie déjà produites nous font abonder toujours plus en espérance, jusqu'à l'exaucement final, et cela par le Saint-Esprit, c'est-à-dire une espérance spirituelle et non charnelle. Ça change tout, ça change tout. Je crois que le Seigneur peut-être veut nous montrer que Dieu a les clés. Oui. Nous sommes souvent devant des portes fermées avec des verrous de fer, et lui il dit, voilà, moi j'ai la clé pour toi. Il y a une chose, avant que la porte s'ouvre, il faut véritablement que Dieu nous renouvelle dans cette espérance vivante et nous pourrons revenir avec des chants d'allégresse. C'est ça ce que le Seigneur veut faire. Il n'y a rien de plus beau de faire des expériences avec Dieu. Et là, on peut dire, ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce et que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse, on va prier maintenant, simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que l'histoire de cette femme, l'histoire d'Anne, est une histoire saisissante, une histoire profondément touchante, parce que c'est l'histoire, en effet, des êtres humains que nous sommes, que nous soyons des hommes ou des femmes, peu importe, nous sommes tous porteurs de quelque chose que nous souhaitons, que nous désirons profondément voir réaliser. Alors Seigneur, merci pour l'exemple de cette femme, parce que tu nous l'as rappelé ce soir, qu'en effet, les choses ont été écrites pour notre espérance, pour que nous puissions avoir la consolation, et que nous puissions être fortifiés parfois dans nos découragements et nos passages à vide. Alors merci Seigneur, parce que nous voulons te remercier pour, en effet, la grâce que tu nous as donnée d'entendre ta parole. Et c'est cette parole qui suscite, qui fait naître dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, eh bien, une parole prophétique. Hein. Oui, Seigneur, tu as parlé. Tu as parlé, Seigneur, à chacun d'entre nous. Et peut-être as-tu parlé à quelqu'un en particulier ce soir. Pour lui montrer, Seigneur, que, en regardant vers le haut, en regardant vers toi, eh bien, il y aura immanquablement une réponse qui sera, Seigneur, infiniment incomparable avec ce que nous avons pu peut-être nous-mêmes imaginer. Seigneur, je te demande de visiter mes amis, de leur faire du bien, Seigneur. Tu connais les fonds des cœurs. Tu connais, Père éternel, ce qui s'y passe. Tu connais parfois les abîmes, les vertiges, dans le temps qui passe, cette lime qui travaille en silence. Mais Seigneur, quelque part, eh bien, nous prépare à avoir des cœurs et des mains pour recevoir abondamment ta bénédiction. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis cette parole et qu'elle puisse faire vraiment du bien. C'est toi, Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas ma parole, Seigneur. Elle est bien insuffisante, Je te demande de faire accompagner, Seigneur, autour de ce commentaire de texte, eh bien, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, eh bien, est agissant, il est puissant pour ceux qui l'ont entendu et ceux qui l'entendront encore. Alors révèle-toi et manifeste-toi. Alors relève les affligés, relève les découragés et donne-leur de regarder vers le haut, de regarder vers le ciel, le Dieu de l'espérance. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.